Les moments musicaux de l'Académie Clémentine, une émission qui vous est présentée par Jacques Vanier et qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir Alice Tollet-Zebrat, petite fille du célèbre organiste Marcel Dupré. Bonjour Alice.
Bonjour Jacques.
Bienvenue dans cette émission. Alors vous savez que le principe de cette émission, c'est de vous diffuser les concerts qui auraient pu être organisés par l'Académie Clémentine dans l'église Saint-Georges à Cannes ou de tourner autour d'un thème. Aujourd'hui, donc, nous avons le prétexte de la parution des souvenirs de Marcel Dupré, édité par l'association des Amis de l'art de Marcel Dupré, dirigée par un dénommé Bruno Chauvet, c'est ça,
Alice ? Bruno Chauvet, oui, voilà. C'est exact.
Et donc, comme Alice est une amie, c'était que j'ai lu avec passion ce recueil de souvenirs qui lui est dédié d'ailleurs, ainsi qu'à son frère et à sa sœur.
Qui a été écrit quand nous avions 6 ans.
Ah voilà, alors c'était, disons, un legs testamentaire pour dire voilà l'histoire de votre grand-père.
Voilà, il voulait consigner par écrit tous ces souvenirs qui nous étaient destinés.
Alors, on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, enfin pour les jeunes générations, ce que pouvait être Marcel Dupré. Marcel Dupré était une, je dirais pas une coqueluche mondaine de la vie parisienne, mais Arlette Armaroli, qui était la présidente, qui est la présidente des Amis de l'Orchestre de Cannes, me disait que à Paris, tout le monde allait écouter les messes de Marcel Dupré, en se demandant même si on allait à la messe ou si on allait écouter l'orgue et l'organiste.
Oui, c'était une sorte de salle de concert improvisé tous les dimanches matins.
Alors c'était à la fois un organiste, un grand organiste et un virtuose, mais c'était aussi un compositeur. On en reviendra sur tous ces sujets au cours de cette discussion, mais il a composé beaucoup d'œuvres et un improvisateur aussi.
Oui, il a été certainement un des grands improvisateurs du XXe siècle. On peut dire que d'une certaine façon, toute sa vie, quels que soient les aspects qu'on puisse analyser, ont été dédiés à la musique, quelle que soit la manière dont cette musique a été révélée, mais il a donné sa vie pour la musique.
Effectivement, mais sa vie lui venait de la musique, parce que dans l'hindouisme, on est avec une dette envers ses ancêtres. Et donc, il en avait une, puisque comme obélisque, il était tombé dedans quand il était petit. Son grand-père était organiste,
chef de, oui, et puis
maître de chapelle.
De chapelle, dans une église de Rouen, puisqu'il était originaire de Rouen, et qu'il faut peut-être le rappeler, il est né en 1886 et il est mort en 1971. Donc mon arrière-grand-père était chef de chœur, son père était organiste
à Rouen.
Et le petit Marcel a très vite emboîté les pas de son père et de son arrière-grand-père et est devenu l'organiste titulaire de Saint-Vivien de Rouen à l'âge de 12 ans.
Oui, alors on va revenir sur tous ces aspects de cette enfance prodigue. La troisième de ses grandes qualités, c'est qu'il était pédagogue aussi.
Très pédagogue, oui. Et oui, on y reviendra plus tard dans sa carrière de professeur à la classe d'orgue du conservatoire, avant d'en devenir le directeur du conservatoire, mais il a dédié une grande partie de sa vie justement à l'enseignement de l'orgue et il a également donné des cours d'improvisation.
Alors je me souviens d'avoir lu dans ses souvenirs qu'à un moment, ta grand-mère lui faisait remarquer qu'avec toutes les occupations qu'il avait, pourquoi est-ce qu'avec son ami Amable Massis, il avait voulu revivifier le conservatoire de Troyes, d'aller lui-même donner des leçons. Elle lui dit, mais tu es tellement occupé, tu as tellement de choses à faire. Enfin, pourquoi vas-tu te lancer dans cette aventure supplémentaire?
Oui, mais il avait la passion justement d'imprimer cette passion à d'autres et il voulait absolument que même les conservatoires de province puissent avoir une renommée.
Eh bien, je crois que ça lui venait aussi de son père à lui, de ton arrière-grand-père, donc Albert, qui déjà à Rouen avait créé un groupe qui s'appelait L'Accord Parfait.
Oui, c'était une association musicale dans laquelle il employait une centaine de musiciens qui, pour la plupart, étaient des musiciens qui étaient plus ou moins morts de faim, il faut bien le dire. Il n'y avait pas toute cette structure mise en place aujourd'hui et la plupart des musiciens crevaient de faim, il faut bien dire les choses. Et c'était une manière déguisée pour mes arrière-grands-parents de pouvoir non seulement les faire jouer et en même temps pouvoir les nourrir. Et mon arrière-grand-mère d'ailleurs, qui s'appelait Alice comme moi, y tenait beaucoup parce qu'elle avait très très bon cœur et C'était également important pour elle. D'ailleurs, je dois dire qu'elle était, elle jouait du violoncelle, elle était très douée pour le violoncelle. Et c'était une manière également de consacrer son temps à la musique et aux bonnes œuvres.
Très bien. Et d'ailleurs, il paraît que le jour de son enterrement, beaucoup se sont étonnés de voir défiler un groupe
de mendiants, pratiquement, de gens qui étaient
les pauvres d'Alice.
Qui étaient les pauvres d'Alice, voilà. Et elle était très très aimée dans la ville de Rouen. Et elle pouvait donner jusqu'à 12 heures de leçons par jour, pratiquement gratuitement, pour les enfants de ces gens qui n'avaient pas d'argent.
Très bien. Alors, ton grand-père était un enfant prodige. Je crois que son jouet, c'était l'orgue. Enfin, il n'y avait pas de train électrique, il n'y avait pas de machin. Et qu'à 8 ans, il a donné son premier concert public, c'est
oui,
ça ?
Oui, son premier concert public, une fugue de Bach. Et on peut dire qu'il est né dans l'orgue, d'une certaine façon. Et il ne l'a jamais quitté.
Oui, il faut dire que dans le quartier du Vert-Buisson, où l'arrière-grand-père avait une maison, il y avait déjà un orgue et une salle d'orgue.
Voilà, il y avait déjà une salle d'orgue. Mon arrière-arrière-grand-père avait construit dans les années 1850 un orgue, parce qu'il était très très adroit de ses mains, il n'avait surtout pas les moyens d'acheter un orgue. Et il avait des compétences techniques, technologiques et musicales qui lui ont permis de pouvoir arriver à ce résultat, d'avoir son orgue fait de ses propres mains.
Alors il paraît qu'il y avait j'ai lu une anecdote intéressante, c'est que je crois un anniversaire autour de ses 10 ans où le pâtissier a été très étonné que au lieu d'avoir à inscrire sur le gâteau bon anniversaire, a écrit fugue en sol mineur.
Fugue en sol mineur, absolument. Donc tout tournait autour de la musique, jusque dans les cuisines. Voilà.
Voilà. Et à 11 ans, alors pour sa première communion, on lui demande ce qu'il voulait comme cadeau.
Alors, ce qu'il voulait comme cadeau, il voulait aller visiter la Tour Eiffel, bien évidemment, et puis également monter à l'orgue de Notre-Dame.
Voilà, et également, je crois, déjeuner avec Guillemant.
Et déjeuner avec Guillemant. Alors, Alexandre Guillemant a été le professeur d'orgue de son père, et il le deviendra de façon beaucoup plus régulière par la suite.
Alors, à un moment, je crois que dans le programme parisien, il se trouve que le temps manque,
oui.
Et son choix, c'est de laisser tomber la Tour Eiffel,
voilà.
Pour aller à Notre-Dame.
Voilà, donc déjà, cette passion de la musique, il ne le quittera jamais et qu'il l'a tenu tout petit, en fait.
Alors, je me souviens d'une plaisanterie qui avait été faite un jour par Jacques Chancel, qui demandait à Maurice Gendron quel était son violon dingre. Alors, Gendron avait répondu que heureusement son violon dingue était son instrument, puisque vu le nombre d'heures qui passaient avec lui, il était important que ça ne soit pas un pinceau, mais une joie. Et puis un autre interviewé une autre fois disait que l'important, c'était pas la musique, c'était pas les notes qui étaient jouées, c'était le plaisir de l'instrument. Et bon, c'était un flûtiste, une harpiste, mais c'est le plaisir de jouer avec la flûte. Qu'importe si on joue du Bach, du Mozart, du...
Oui, mais je crois que cette passion de l'instrument en soi a été dictée par le fait que son arrière-grand-père connaissait, par l'intermédiaire d'un négociant en vin, Cavaillé-Coll. Et il a pu rentrer en contact avec Cavaillé-Coll.
Alors, il faut préciser que...
Cavaillé-Coll, c'est un des grands facteurs d'orgue du XIXe siècle, celui qui a donné les plus grands orgues des plus grandes églises parisiennes et ailleurs. Et c'était un maître en termes de facteur d'orgue.
Et alors je crois que quand il avait 8 ans, un jour, on lui a dit d'aller se promener, enfin il était dans les jambes de l'Assemblée ou quelque chose, et Cavaillé-Coll, qui était présent, a dit « je vais l'emmener faire un tour ». Ils ont fait un petit tour. Et de quoi avez-vous parlé ?
Eh bien d'orgue, et il avait 8 ans. Donc c'était une passion absolue. Il faut dire qu'à l'époque, vers l'âge de 6 ans je crois, il a été opéré d'une maladie, il a fait une ostéomyélite et cela l'a obligé à rester alité très très longtemps, plusieurs mois. Et c'est à cette époque-là que finalement son père s'est aperçu de ses dons organistiques Et dans la mesure où il a appris en 25 jours un recueil de 25 morceaux de musique. Et à partir de là, son père a commencé à changer de regard sur lui et a commencé à comprendre véritablement les dons du petit Marcel. Puisque des années plus tard, il m'a dit, il m'a expliqué, je devais lui poser la question de savoir comment il pouvait jouer si longtemps sans regarder de musique. Il m'a dit, tu sais, j'ai toutes les mémoires. J'ai la
mémoire. J'ai vu que c'est un ami de la famille qui s'appelait Nicole, qui était un médecin
De Rouen.
De Rouen, qui lui avait détaillé
ses capacités.
Cette analyse des capacités mémorielles.
De mémoire.
Des
différents types de mémoire. Et il me dit, tu vois, j'ai la mémoire visuelle, la mémoire auditive, bien évidemment, et la mémoire tactile. Et si l'une de ces trois mémoires me fait défaut, il y en a toujours une ou deux qui me permettent de ne pas faillir.
Voilà. Et donc, j'ai lu aussi que Madame Sanson, qui était la petite fille d'un compositeur normand, Boieldieu, très, très connu, un jour, un peu émerveillé, elle était la femme du trésorier payeur général de Rouen. Donc,
C'était pas une mince affaire.
Elle a donné une somme de 1500 francs de l'époque, ça représente quelque chose, pour acheter un piano à queue pour le jeune prodige.
Oui, un erreur. Et un c'était erreur. Une somme absolument énorme si on compte la période à laquelle nous faisons référence. Donc alors, c'était un très très beau cadeau.
C'était un beau cadeau. Et puis alors la maison Erard a été très gentille. Je crois que le piano valait un peu plus cher. Ils ont fait une réduction. Bref, les choses se sont arrangées. Et donc Marcel Dupré a eu ce piano Erard qui était un piano d'occasion qui avait été utilisé lors d'une tournée par Paderewski.
Oui, et d'ailleurs cet orgue, ce piano est toujours dans la salle d'orgue de Meudon, toujours en bon état et il remplit encore de bons offices.
Alors,
oui, je voulais simplement dire une chose, c'est que dans la famille Dupré, c'était une famille extrêmement modeste qui, malgré ses capacités modestes, consacrait tout à la musique. Donc c'était véritablement une passion mais aussi un esprit. Voilà.
Mais on y reviendra parce que je crois que du soir au matin, la journée était consacrée
à la musique.
À la musique.
Depuis, oui.
Très bien. Alors, on va faire une première pause musicale. Tu nous as recommandé une pièce qui était le final des versets pour le Magnificat, opus 18, qui est interprétée par une de ses élèves, Suzanne Chaise-Martin, sur l'orgue dont il a été le titulaire pendant de nombreuses années, sur lequel il a joué pendant 65 ans.
65 ans.
Voilà. Alors, c'est rendez-vous à Saint-Sulpice, le final de Verset pour le Magnificat, opus 18. Évocation donc de Marcel Dupré, le grand organiste, avec une composition de sa main finale, de Verset pour le Magnificat. Nous sommes avec sa petite-fille, Alice Tolé-Zebrat, qui n'est pas seulement sa petite-fille, mais qui l'a très bien connue, puisque malheureusement, après le décès prématuré de sa maman, c'est Marcel Dupré et son épouse qui l'ont éduquée. C'était en quelle année ?
C'était en 63, nous étions encore très, très jeunes. Et en fait, mes grands-parents avaient déjà plus de 80 ans et ils ont pris en charge trois adolescents, trois très très jeunes adolescents. Et pour eux, ça a été quand même très difficile, d'autant plus que c'était leur fille unique et leur fille adorée. Et ils ne se sont pratiquement jamais remis de cette mort. Mais... en fait, cet enfant, Marguerite, puisque c'était son prénom, eh bien, elle a vécu dans cette ambiance musicale et elle a été pianiste. Elle avait des dons pianistiques et d'ailleurs, elle a été associée aux tournées de mon grand-père aux États-Unis et a joué avec lui. Et à son retour des États-Unis, elle s'est mariée. Elle a consacré sa vie, les quelques années, les 10 années qui lui restaient à vivre, à s'occuper de ses deux jumelles et de son fils. Voilà.
Voilà, mais donc il faut peut-être profiter de l'occasion pour signaler que Marcel Dupré n'était pas seulement un organiste, qu'il avait ouvert l'orgue vers des collaborations avec d'autres instruments.
Oui, c'est-à-dire que l'orgue, en général, était joué seul et il a voulu l'intégrer dans des compositions qui prenaient en charge, par exemple, un orchestre entier ou alors de la musique de chambre ou du piano. Voilà. Donc, il a le côté novateur de ses compositions, ça a été d'intégrer l'orgue dans une orchestration gigantesque.
Très bien. Alors, on va revenir au jeune Marcel Dupré qui va profiter à 12 ans, donc devient titulaire de l'orgue de Saint-Vivien à Rouen.
Oui.
Et vous rendez compte, à 12 ans, titulaire de l'orgue. Alors, ça lui fait quelques ressources. Et il décide de consacrer ses ressources pour prendre des leçons chez Guillemant.
Chez Guillemant, qui habitait à cette époque-là à Meudon. Donc, mon grand-père était à Rouen. Et une fois par mois, évidemment, Guillemant a accepté parce qu'il savait déjà que cet enfant avait des dons exceptionnels. Et une fois par mois, il prenait le train, qui était d'ailleurs encore une expédition à cette époque-là, d'aller de Rouen simplement à Meudon. Et il prenait des cours avec donc Alexandre Guillemant, voilà, qui sera plus tard son professeur au conservatoire.
Voilà, alors il a eu un autre professeur au conservatoire qui s'appelait Vidor.
Vidor, Charles-Marie Vidor.
Qui était, paraît-il, assez rosse.
Oui, il avait une réputation.
Et alors les élèves, paraît-il, avaient fait un mauvais jeu de mots puisqu'il était rosse, il avait dit qu'il était dur et c'était Vidor dur, c'est ça ?
Oui, c'est une anecdote qui nous
raconte.
Voilà, de potache, tout à fait. Mais il n'empêche qu'il a bénéficié des talents, du talent de Vidor et notamment dans ses compositions. Il avait un immense respect pour Vidor, auquel d'ailleurs il a succédé à l'église Saint-Sulpice.
D'abord, je crois qu'en 1905, il a un premier prix de piano au Conservatoire de Paris.
Oui.
Avant d'avoir en 1907 le premier
prix d'orgue.
Mais entre-temps, alors qu'il avait simplement 20 ans, Vidor le prend comme assistant à Saint-Sulpice. Ça sera le début de son aventure à Saint-Sulpice.
Voilà, qui durera jusqu'en 1971 à sa mort. D'ailleurs, il est mort 2 heures après, le jour de la Pentecôte, 2 heures après avoir joué l'orgue de Saint-Sulpice.
Voilà, c'était le Molière de l'orgue.
Le Molière de l'orgue, voilà.
Très bien. Donc, il a son prix d'orgue.
Avec Guillemant, dans la classe de Guillemant, en 1907.
Voilà, et la petite anecdote, c'est qu'il a commencé à jouer une pièce de Bach, je crois, puisqu'on va revenir sur sa passion pour Bach, et qu'au bas de la première page, Gabriel Fauré, qui était membre du jury, l'a arrêté en disant « Bon, ça suffit, on en a assez entendu, vous avez le prix. » Très bien. Alors, il faut bien préciser qu'il a commencé aussi les études de piano beaucoup plus tôt. Il avait commencé les études de piano au conservatoire avec Diemer.
Voilà,
oui. En 1901.
En 1901, oui, voilà. Et il a eu son prix de piano en 1905.
1905.
Il avait donc 15 ans.
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au lycée, il s'est consacré au conservatoire.
À la musique. Mais tout en continuant à se cultiver, il avait un esprit absolument encyclopédique et il constituait des carnets sur tous les domaines intellectuels, scientifiques et même littéraires. Il n'a jamais perdu pied avec la culture en dehors du monde musical.
Très bien. Alors, il a aussi, en plus de tous ces prix, il a également eu, il a concouru pour le prix de Rome.
Oui.
Où il a été reçu la deuxième fois, parce que la première fois, alors...
La première fois, on lui a reproché de donner des concerts et de ne pas se consacrer uniquement à la composition du prix de Rome, qui était une cantate. Donc il a été, disons, sévèrement sanctionné parce qu'on n'acceptait pas, il y avait une sorte d'éthique, on n'acceptait pas qu'en même temps qu'il prépare le concours de Rome, eh bien, il donne des concerts en public.
Alors, je crois avoir lu que Vidor constate que le jury est partagé et fait demande à Camille Saint-Saëns de venir faire le neuvième jury pour arbitrer l'équilibre qu'il y avait avec un dénommé Delmas, Marcel
voilà,
Delmas, c'est
ça. Voilà, et finalement, on lui a donné le prix l'année d'après.
Voilà, alors, en récompense, enfin, remerciement, je crois qu'à Saint-Sulpice, ton grand-père a joué un morceau de Saint-Saëns qui, après, l'a reçu, a accepté de le recevoir et lui a prodigué des conseils lors de plusieurs entretiens. Voilà. Alors, en 1916, arrive un événement intéressant. Il y a Vierne, qui oui. était un organiste et un compositeur, qui était titulaire des orgues de Notre-Dame de Paris, qui doit prendre un congé pour se
présente
faire
santé.
Soigner.
Voilà. Et on demande à mon grand-père, justement, d'assurer l'intérim. Et en fait, cet intérim durera 5 ans. Donc, de 1916 à 1921, il est à Notre-Dame. Voilà. Et c'est une période charnière en ce qui concerne Marcel Dupré, en ce sens que l'année 1920 est celle où il va être définitivement lancé, en ce sens qu'il va donner, c'est quelque chose qui le travaillait déjà depuis longtemps, il voulait apprendre toute l'œuvre de Bach par cœur, ce qu'il a fait, et il donnera en 10 récitals, d'abord en 1920, toute l'œuvre de Bach par cœur sur l'orgue du Conservatoire de Paris, et l'année d'après, il reprendra cette...
Alors c'était c'était des concerts gratuits, c'est-à-dire que Alfred Cortot, qui était au Conservatoire de Paris, avait accepté de mettre une salle avec l'orgue à sa disposition pour ces 10 concerts. Alors c'était absolument fabuleux qu'à l'époque, quelqu'un puisse, de mémoire, offrir toute l'œuvre de Bach en 10 concerts.
Ça n'avait jamais été fait.
Alors il paraît que Forêt était très étonné et que Busoni, à qui on avait dit la chose, n'a eu qu'une... Une réponse, c'est 1, rester sans voix. Il faut dire aussi qu'avant de s'attaquer à Bach, il avait déjà appris tout Franck par cœur.
Enfin, oui, qu'il avait joué devant ses parents 3 heures d'affilée pour se faire les... comment dire... pour montrer à ses parents de quoi il était capable.
Voilà.
Et pour leur faire une sorte de surprise.
Alors il avait donné à ses parents les partitions afin qu'ils puissent vérifier qu'il ne changeait aucune note et qu'il avait bien tout respecté dans sa mémoire. Alors il avait là cette passion pour Bach. On va l'écouter jouer du Bach, un Kyrie, prélude de chorale.
Oui, joué par lui-même.
Joué par Marcel Dupré lui-même. Voilà, et Marcel Dupré lui-même, aux orgues de Saint-Ouen de Rouen. Donc, il y a une période malheureuse pour la France, c'est la Première Grande Guerre mondiale. Et le 14 juillet 1919, il y a une grande cérémonie à Notre-Dame où Marcel Dupré est toujours intérimaire aux orgues de Notre-Dame. Et c'est lui qui donc joue la messe de commémoration de victoire. Et à la fin, pour la sortie, il fait une improvisation sur la Marseillaise. Et deux jours après, dans une cérémonie... Il a l'occasion d'être présenté au maréchal Foch.
Et qu'il reconnaît que finalement, la Marseillaise avait été jouée par mon grand-père de façon beaucoup plus lente que ce qui était joué d'habitude dans les marches militaires, dans la mesure où il avait tout compris que finalement, à cause de la résonance de l'édifice, il était obligé de ralentir le rythme de cette improvisation.
Alors la guerre est terminée, la Villa Médicis à Rome ouvre et le Grand Prix de Rome devrait partir passer 4 ans au sein de la Villa Médicis. Mais bien évidemment, l'évêque ne veut pas le lâcher puisque Vierne est toujours
en Suisse
pour se soigner. Et donc, il y a un accord qui est trouvé. Le prix de Rome lui est décerné pour 2 ans avec résidence à Paris.
Voilà, sans être obligé de passer les 4 ans à la Villa Médicis.
Voilà, alors arrive après une période toujours titulaire du Grand Prix de Rome, intérimaire des orgues de Notre-Dame, arrive un début de carrière internationale. Alors, c'est la rencontre avec un personnage extraordinaire qui s'appelle Claude Johnson, qui est un des patrons de Rolls-Royce, qui l'a écouté lors d'improvisation.
À Paris,
et qui lui commande, ne sachant pas que ce sont des improvisations, lui commande les textes de ses
improvisations.
Des pièces qu'il a jouées. Alors, ton grand-père lui répond que ce sont malheureusement des improvisations et que donc il n'y a pas de texte, mais qu'il se propose de lui en rédiger quelques-unes à son attention. Donc, il reçoit commande de se dénommer Johnson, et c'est le début d'une longue collaboration.
Oui, et d'ailleurs, il l'invite à Londres pour son premier concert en Angleterre. C'est donc le 10 décembre 1920, toujours cette année charnière. C'est la fin de l'année qui avait débuté par les 10 concerts, les 10 récitals à Paris. Et il jouera donc en présence du prince de Galles, le futur Édouard VII, au Royal Albert Hall de Londres, sa symphonie Passion.
Voilà, et je crois qu'il... Est-ce déjà la symphonie Passion ? Je ne suis pas sûr.
Oui.
Il y avait 11 000 personnes.
Il y avait 11 000 personnes. C'était donc un concert très, très attendu et qui va être le signal d'un lancement aux États-Unis également.
D'accord. Alors, je lis aussi que Johnson était venu à Notre-Dame l'écouter et s'étonnait qu'à la fin des messes, après les sorties, après quelques mesures... Dupré soit obligé d'interrompre parce que les souffleurs, l'orgue n'était pas électrifié.
Oui, le son tournait court.
Son tournait court parce que les souffleurs allaient boire un coup, pensaient que leur travail était terminé, la messe était finie, il n'y avait pas besoin d'accompagner l'organiste. Alors, il était passé voir Dupré en disant « J'ai donné quelques pièces aux souffleurs et vous devriez pouvoir aller au bout de votre morceau. » Mais là, ce ne fut pas le cas.
Et les souffleurs avaient empoché l'argent et étaient sortis de la même manière.
Donc, Johnson, très élégamment, a dit « Écoutez, je vous offre, puisqu'il était des présidents de Rolls-Royce, a dit « Je vous offre le moteur pour faire souffler
votre
orgue, mais dites bien que je suis anglican et que votre évêque ne voit aucune intrusion de mon église dans la sienne. » Enfin, tout ça s'est passé très élégamment. Ensuite, il part pour les États-Unis, c'est ça ?
Oui, il y a donc la première tournée aux États-Unis qui va être l'occasion pour lui de donner, sur plusieurs années.
Alors, il y a une anecdote, je t'interromps, là, il y a une anecdote sur le dénommé Russell qui vient le chercher à Paris. Il est recommandé par Vidor, bien évidemment, et qui ne peut écouter ton grand-père jouer.
Et oui, mais finalement, ce dénommé Russell va le mettre en contact avec le grand
Les grands magasins Wanamaker.
Wanamaker de Philadelphie. En fait, il y avait une succursale à Philadelphie et le grand magasin, le premier magasin était à New York. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces grands magasins, Wanamaker était un fou d'orgue. Il avait construit le plus grand orgue du monde. Et il donnait des concerts dans son grand magasin, qui était l'équivalent multiplié par 10, peut-être, je ne sais pas, du bon marché, par exemple. Et il associait donc le commercial à l'artistique. Et c'est comme cela que mon grand-père a joué une première fois sur cet orgue.
Alors je pense que pour leur première tournée, il s'était engagé à être en exclusivité avec Wanamaker, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas d'autres concerts aux États-Unis que ceux organisés par Wanamaker, et que donc ce fut un succès. Il avait notamment fait sa première improvisation de la Symphonie Passion.
Oui,
voilà.
Et j'ai anticipé tout à l'heure sur la Symphonie Passion. C'était simplement quelques années plus tard. Donc la Symphonie Passion, c'était véritablement une improvisation qu'il a faite sur cet orgue de Wanamaker, qui sera transcrite par la suite plus tard. Et j'aimerais expliquer un peu comment ces improvisations lui venaient. Alors il y avait toujours une structure extrêmement précise, parce que c'était une sorte de mathématicien dans la manière de construire ses œuvres. Il a dit la chose suivante à propos justement de la Symphonie Passion qui avait été improvisée à Philadelphie. En dehors de la division générale des quatre morceaux ainsi que des quatre thèmes, il reste dans l'œuvre achevée la forme de chacun des morceaux, les rapports des tonalités et un certain nombre de notes que je me hâtais de consigner après le concert, la nuit durant, dans ma chambre d'hôtel. Que peut-il subsister d'une improvisation fugitive, si ce n'est ce qui vous a frappé assez fortement pour que vous puissiez en prendre conscience sur le moment avec la volonté de le retenir ? L'improvisateur est, ne l'oubliez pas, le premier témoin de l'œuvre qui naît. Et ça, c'est très très important, parce qu'il procédera toujours de cette façon-là. Il y aura toujours une sorte de vision avant qui s'avérera être l'œuvre définitive. C'est-à-dire qu'il avait dans l'esprit la partition qui se créait au fil des notes et qui était en même temps une œuvre achevée et de manière parfaite.
Alors nous écoutons une partie de cette Symphonie Passion, Résurrection.
Qui est une sorte de grand poème, finalement.
Très bien, alors cette fameuse symphonie Passion, qui fit que le plus grand critique américain de l'époque cria au miracle musical et que sa carrière aux États-Unis était lancée. L'année suivante, il revint pour 14 concerts et fit je ne sais pas combien de concerts aux États-Unis.
800, environ 800 entre 1922 et 1960.
Alors, la version définitive de cette symphonie Passion qu'il avait écrite après fut exécutée la première fois en l'église catholique de Londres, de la cathédrale de Westminster, en 1924, c'est ça ?
Voilà, oui. Et ça sera donc pour la première fois que cette œuvre sera jouée en Europe.
En Europe. Et donc, c'est l'époque aussi où il commence sa carrière de pédagogue.
De pédagogue, oui, au conservatoire donc de musique de Paris. Il prendra sa première classe d'orgue en 1929. Hein, et c'est l'époque où il accepte Messiaen dans sa classe. Que son père...
Oui, alors je lis là en même temps ce qu'il raconte sur Messiaen. Il dit qu'il est venu à Meudon voir sa salle d'orgue. C'est la première fois qu'il voyait un clavier d'orgue. Il avait 19 ans. Après une heure d'explication et de démonstration, je lui donne à travailler la fantaisie en ut mineure de Bach. 8 jours plus tard, il revient et me la joue par cœur, impeccablement, fait inouï. À la classe, il ne bougeait pas, mais semblait assez absent. Je m'en ouvris à son père, professeur d'anglais. « Des centaines d'enfants me sont passés entre les mains, me dit-il. Mais Olivier est le seul auquel je n'ai jamais rien compris. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à table, il coupe toutes les conversations pour parler de vous. »
Oui, en fait, mon grand-père avait compris les dons exceptionnels de ce jeune homme.
Alors, ce jeune homme a eu pendant la guerre suivante, on anticipe un peu, mais il a été prisonnier en Allemagne.
Oui, envoyé dans une mine de sel. Et mon grand-père ira jusqu'à la Kommandantur pour essayer de le faire libérer.
Ce qu'il a réussi à faire et à lui faire élire à un poste qui lui assurait une continuité dans ses ressources.
Absolument, voilà. C'est donc l'église de la Trinité. Il a été titulaire de l'église de la Trinité.
Alors il y a eu un petit, avec Messiaen à ce moment-là, Messiaen ne voulait pas accepter parce que ton grand-père n'avait pas encore d'église dont il était titulaire. Il était intérimaire
à Notre-Dame.
Vidor, il était assistant de Vidor à Saint-Sulpice.
Pas encore titulaire,
pas titulaire
de Saint-Sulpice.
De Saint-Sulpice. Et Messiaen ne voulait pas être titulaire d'une église avant son maître. Donc,
et finalement, les choses se sont arrangées très très vite et... Messiaen a pu prendre son poste sans problème.
Alors maintenant, nous allons écouter une pièce qui est Le Chemin de Croix.
Oui, pièce qui a été composée un ou deux ans plus tard, enfin entre 1931 et 1932. C'est une œuvre qui comporte donc les 14 stations du Christ, enfin de la Passion du Christ, et qui a été composée sur les versets de Claudel. Donc c'est une œuvre très austère, mais très belle. Nous allons vous passer la neuvième station, quand Jésus tombe pour la troisième fois.
Voilà, alors, en l'écoutant, toi qui as essayé d'apprendre le piano avec lui, c'est ça?
Oui, ça n'a pas été très fructueux parce que j'étais très rebelle. Mais il n'empêche que mon grand-père, avec beaucoup de constance, a essayé de m'apprendre les rudiments du piano jusqu'à l'âge de 15 ans. Et j'ai préféré...
Mais il y avait solfège au retour de l'école
tous les jours. Tous les jours à midi, de midi à midi et demi, nous écoutions, nous faisions un petit peu d'harmonie. Et j'étais relativement hermétique, à la mesure où d'abord j'avais faim. Et j'avais 10 ou 12 ans. Et finalement, j'ai préféré faire des études traditionnelles plutôt que me consacrer à la musique. J'ai trop vu cette atmosphère de travail permanente sans samedi ni dimanche. Et c'était pour moi hors de mes...
Alors, tu révisais tes devoirs dans la salle d'orgue quand même?
Oui, c'est vrai, tous les soirs, je faisais mes devoirs dans le bureau de mon grand-père, qui était attenant à sa salle d'orgue. Et en même temps que je faisais mes devoirs de petite fille, eh bien, il composait toutes ses œuvres magnifiques, il faut bien le dire, mesure par mesure. Et c'était impressionnant de le voir dans cette grande salle plongée dans le noir avec uniquement la petite lampe du buffet d'orgue qui faisait qu'il se détachait comme une ombre chinoise, été comme hiver.
Et alors tu me disais qu'il y avait quelque chose de très innovant dans son mode de composition.
Oui, enfin je ne suis ni critique musicale ni musicologue, mais c'est vrai que ce qui a fait l'intérêt de l'œuvre du Dupré, c'est une innovation caractéristique par rapport aux œuvres d'orgue précédentes, mais il n'a jamais renoncé aux œuvres traditionnelles, aux structures traditionnelles de l'œuvre organistique en soi. Mais il a été également innovateur dans la mesure où il a essayé d'associer l'orgue à d'autres instruments de musique, musique de chambre ou d'autres cuivres également. Par exemple, dans son De Profondis, qui est un hommage aux morts de la guerre de 14, il assimile l'orgue et toutes sortes de cuivres.
Très bien. Alors, événement important, le 3 juin 1937, c'est le mariage de Wallis Simpson avec l'héritier du trône d'Angleterre qui renonce à ses droits. Le prince de Galles devient le duc de Windsor.
Et oui, et le duc de Windsor, qu'il avait entendu dans un de ses concerts à Westminster, justement, a demandé expressément que ce soit Marcel Dupré qui joue son mariage. Donc, il a joué ce mariage à la petite chapelle du château de Candé, en Touraine.
Voilà, et puis un peu plus tard, donc en 1939, c'est un événement malheureux pour lui. Son père est parti se reposer à Biarritz, et il est très faible, et il décède alors que ton grand-père ne peut pas être à côté de lui.
Non, il est en Australie, il fait sa dernière tournée en Australie, et d'ailleurs il a pris le dernier bateau qui quittait l'Australie juste avant la déclaration de la guerre, mais il n'a pas pu être là pour l'enterrement de son père.
Alors il se trouve que les voisins de la villa où habitait son père, c'était le compositeur Charpentier, l'auteur de Louise, qui s'est proposé donc pour conduire le deuil. Et avec lequel ton père, après, aura de nombreux entretiens.
Mon grand-père.
Ton grand-père,
mon grand-père, ouais. Oui.
Aura de nombreux entretiens sur la côte des Basques à Biarritz, devisant sur la musique en regardant la mer.
Oui, mon grand-père aimait bien retourner à Biarritz. D'ailleurs, sa femme était d'origine basque et il aimait beaucoup cette région. Et d'ailleurs, il composera en mémoire de son père cette œuvre qui s'appelle « Évocation ».
Mais écoutez, on en écoute un extrait.
Voilà, très bien.
Thank you. Alors Marcel Dupré a aussi été un grand précurseur en matière de technique de l'orgue. D'abord, il a fait électrifier l'orgue de Meudon.
Qui était d'ailleurs celui d'Alexandre Guilmant, qu'il a racheté. Et sa nouvelle maison était à peut-être 200 mètres de la maison de Guilmant, ce qui fait que les ouvriers ont déplacé à la main par le petit sentier commun les tuyaux d'orgue de Guilmant et ils les ont remontés dans la salle d'orgue de mon grand-père.
Alors il a aussi inventé un appareil absolument extraordinaire, qui était un registrateur.
Un registrateur, oui, cela lui permettait d'ajouter tous les jeux qu'il voulait. Et en particulier, il a créé certains jeux ce qui fait que cet orgue de Meudon est unique au monde, en ce sens que certaines œuvres qu'il a composées, et en particulier les nymphéas, ne peuvent être jouées que sur cet orgue-là. Et les nymphéas, c'est évidemment l'œuvre célébrissime de Claude Monet, qui l'a inspiré. Et il a d'ailleurs
bien connaissait son petit cousin.
Connaissait son petit cousin qui s'appelait Édouard Monet, qui lui est resté fidèle toute sa vie. Ils ont été très très amis très longtemps, jusqu'à la mort d'Édouard Monet, mort assez jeune d'ailleurs. Et pour en revenir à donc cette orgue de Meudon, il a été véritablement une sorte de... Enfin, mon grand-père a eu véritablement un esprit novateur en facture d'orgue, alors qu'il n'était pas du tout organier, comme on disait.
Oui, mais petit, il est déjà regardé construire l'orgue
attentivement. C'est vrai qu'il avait fait quelques stages de construction d'orgue et qu'il avait des idées très très arrêtées sur la question.
Alors, un autre morceau pour conclure avec un peu de musique. Placare Christi, Servulis.
Servulis, oui.
Voilà. Quelques mots sur ce morceau ?
Eh bien, c'est une œuvre religieuse, comme la plupart des œuvres qui étaient destinées à être jouées dans les églises. Et on a véritablement aussi la facture du prêt dans sa manière de moduler, de structurer l'œuvre et puis d'essayer de donner une coloration, une grande coloration à ses œuvres.
Thank you.
Alors l'électronique ne rend pas grâce à l'orgue, c'est un instrument tellement puissant, quand on l'écoute dans l'église enfin, ou dans la cathédrale, c'est un instrument qui vous prend le corps, qui vous frappe la poitrine. On est dans la musique avec l'orgue et malheureusement la distance que crée la radio, les moyens mécaniques, électroniques ne rendent pas cette puissance. Alors, on arrive un petit peu au bout de l'émission, on n'a pas tout dit de ce qu'on pouvait dire, mais simplement rappeler qu'au-delà de Messiaen, il a été aussi le professeur de Marie-Claire Alain, de Suzanne Chaise-Martin, de Roland
Falsinelli,
de surtout Pierre Cochereau qui sera après lui nommé titulaire à Notre-Dame.
Et qui sera d'ailleurs le directeur du conservatoire de Nice, il faut bien le dire. Il voulait absolument avoir un conservatoire de province, il a eu Le Mans et ensuite il a eu Nice. Voilà.
Donc, dire que ton grand-père aussi avait bien connu et travaillé avec Albert Schweitzer.
Oui, c'était un grand ami d'Albert Schweitzer. D'ailleurs, sa famille habitait Meudon. Il était donc l'oncle de
Jean-Paul Sartre,
qui habitait Meudon dans les premières années de sa vie. Et Schweitzer était d'ailleurs un organiste. Il avait travaillé l'orgue, mais sa vocation de médecin l'a appelé sous d'autres cieux. Et en particulier, il a créé l'hôpital de Lambaréné au Congo, bien qu'on essayait de le dissuader de ce projet. Mais rien ne... Rien n'y a fait, il a voulu partir et il est parti.
Bien, alors on n'a plus de temps pour évoquer tous les compositeurs russes qui étaient à Meudon,
oui.
Glazounov,
Metner, également Rachmaninov. Il faut dire qu'après la révolution russe, tous ces musiciens sont venus en France, étaient exilés. Et on peut dire que certains, comme Glazounov, qui était le directeur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, a subi son exil, car il n'a jamais accepté de ne pas retourner en Russie. Mais tous ces musiciens russes, finalement, se sont retrouvés à Paris. Et mon grand-père, quelque part, a fait le lien avec eux.
Très bien. Alors... Je vous rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Alice Tolézébrat, qui était la petite fille de Marcel Dupré. J'espère que ça vous aura donné envie de connaître mieux ses œuvres, d'apprécier l'orgue. L'Académie Clémentine espère que ces moments musicaux vous auront réjoui. Et je pense que le mieux, c'est de se quitter avec un morceau de ton grand-père, jouant du Bach, puisque c'était vraiment un passionné de Bach.
Oui, c'était un fou de Bach.
Il a
annoté toute l'œuvre de Bach, et d'ailleurs, dans l'édition originale, la Bachgesellschaft. En tout cas, je voudrais remercier Jacques Vanier, ainsi que l'Académie Clémentine, de m'avoir reçue.